Et du moins, sans exception, pratiquement, nous serons là, et comme ça. Pourquoi? Parce que le travail que nous avons à faire cette année est un travail important. Hein, c'est un travail très important. C'est surtout le samedi, un travail de philosophie, c'est-à-dire d'ouvertir de l'intelligence, hein, de manière d'ouvrir dans notre intelligence la dimension qui dépasse le point de vue des idées, le point de vue des opinions, le point de vue de la raison, du raisonnement, des démonstrations, de la logorée, quoi. Cette espèce de désir tout le temps d'être intelligent par le point de vue de la lumière qui brille. Ça veut dire être idiot. C'est le paon, vous savez, qui ouvre sa queue, et en fait, on ne voit que ses fesses. Il croit qu'on regarde que la beauté du spectacle, des plumes. Et en fait, on ne voit que ses fesses, sinon c'est horrible. C'est ça, quelqu'un qui essaye d'être intelligent par le point de vue, donc, d'être brillant. Nous, ce que nous voulons, c'est que notre intelligence fonctionne d'une manière contemplative. Comprenez? Donc, que l'intelligence naturelle de l'homme puisse enfin apparaître un petit peu au-dessus du niveau de la mer. Et qu'on ne soit pas englué dans une intelligence qui est entièrement noyée par le point de vue des opinions, le point de vue des idéologies, même de nos propres idées à nous, notre petite manière de voir. Parce que dès que vous avez une manière de voir, vous savez, vous n'avez pas besoin de prendre un moine pour vous l'entendre dire, un simple psychologue vous le dirait, c'est que vous réfléchissez dans vos idées, ben, vous fixez dans vos idées, c'est une névrose, c'est une maladie psychologique. Alors tout le problème, c'est de sortir de la maladie psycho, c'est pas affective, psycho-animale, puisque donc l'homme s'est dégradé, et c'est ça le problème des philosophes et de la sagesse, c'est de réveiller cette intelligence contemplative, intelligence naturelle, intelligence native. Voilà. Évidemment, donc je vous demande pardon d'être moine, je devrais le samedi enlever ma robe, me mettre en pantalon, en jean, etc., quoi, parce que, mais enfin, correct quand même, hein, l'habit du philosophe, je sais pas, mais... Je ne sais pas quel est l'habit du philosophe, mais sachez bien quand même que le philosophe dans la tradition, il a quand même en principe une tunique. Il a une tunique. Donc je suis dans la grande tradition du philosophe. Et je mets la tunique, tunique grise. Tunique bien grise. Bon, alors, cette année, ne soyez pas affolés. J'ai attendu 6 ans, 7 ans même. J'ai attendu la 7e année pour attaquer notre sujet principal, qui est la métaphysique. Puisque pour ceux qui, les visages nouveaux qui sont là, et je m'en excuse, nous avons quand même travaillé depuis 6 ou 7 ans maintenant. Hein. Alors vous arrivez, vous prenez le train en marche, et c'est très bien, parce que comme ça, on attaque directement la falaise. Hein, c'est bon, hein, c'est bien, après, on a ramé pendant 6 ans, on attaque la falaise. Mais remarquez bien, ne soyez pas affolés. Parce que, après tout, il y a tout un langage que vous, peut-être, c'est avoir du mal à saisir. Moi, si ça peut vous consoler, j'ai commencé ma quête philosophique par la métaphysique. Vous voyez, donc finalement, ça m'a. J'ai pas. Je marche pas sur la tête pour. Non, je suis un petit peu, justement. Bon, alors, on va se dire, c'est pas du tout aberrant de commencer par la métaphysique. C'est même très intéressant de commencer par la métaphysique, parce qu'au moins après, quand on regarde le point de vue de l'amour, le point de vue du corps, le point de vue de la vérité, etc., etc., on a une espèce de. On a une vision panoramique extraordinaire. C'est ça l'avantage de la métaphysique. Bon, si vous avez des difficultés, alors je vous rappelle les règles du jeu, si vous voulez. Les règles du jeu, c'est qu'on cherche ensemble. C'est-à-dire, je ne vais pas vous flanquer un truc, une idéologie, en disant, voilà comment il faut voir les trucs. Hein. Voilà comment il faut voir les choses. Moi, je suis, j'appartiens à une tradition philosophique, j'ai 20-30 ans de philosophie dans les reins, mais donc j'essaie de vous faire gagner du temps, en disant, bon, Vous n'avez peut-être pas repéré, mais enfin, Aristote, il a dit comme ça. Heidegger, il a plutôt dit de cette manière-là. Bon, plutôt que vous passiez 8 ans à étudier tout Heidegger, tout Hegel, tout machin, ouais, tous les maîtres morts, on appelle ça. Tous les maîtres morts, tous ceux qui sont dans la tombe. Bah, plutôt que de passer 8 ans à étudier chaque auteur, ce n'est pas si commode que ça, je vous fais gagner du temps et je vous dis, bon, ben voilà, écoutez-moi, finalement, je me suffis à faire finalement avec le livre des états d'Aristote. Par exemple, j'essaie de vous faire gagner du temps. Mais peut-être que je me trompe, j'aurais peut-être dû choisir un autre truc. Si vous avez trouvé d'autres trucs, je vous en supplie, vous venez apporter à bouffer à tout le monde. Comprenez ? Parce que, en fait, une recherche donc communautaire. On cherche la vérité, comprenez ? La vérité, c'est pas un truc qui s'impose à nous comme ça, et puis vous êtes obligé d'y croire. La vérité n'est pas objet de la foi. La vérité, c'est pas la foi. Comprenez ? La vérité, c'est on est capable, oui ou non, d'atteindre une vérité de manière contemplative. Est-ce qu'on est capable ou pas ? Si on n'est pas capable, si on ne le sait pas, c'est inquiétant. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas si la vérité, ce qui me paraît être la vérité, d'abord, je suis même pas sûr que la vérité, j'ai jamais touché quelque chose qui correspond à la vérité. Ah. Première question que vous devez vous poser. Moi, j'ai jamais touché quelque chose. Ah, c'est ennuyeux, ça. C'est ennuyeux. Si vous avez jamais fait, avec votre intelligence naturelle, l'expérience de la vérité, c'est ennuyeux. C'est embêtant. Ça prouve que vous n'avez jamais fait de métaphysique, justement. Ou alors vous dites, mais si, j'ai eu certaines certitudes. J'ai des certitudes. Ah oui, mais attends, tes certitudes, elles te viennent d'où ? De ton éducation, elles te viennent de ta pensée, elles te viennent de tes opinions. Tes opinions, elles viennent de tes idées, elles viennent de toi. Mais est-ce que la vérité, c'est de comprendre ce que je porte en moi et quelles sont mes idées ? La vérité, ce n'est pas mes idées. Donc, j'ai jamais touché la vérité. Donc, vous voyez, deuxième petit examen de conscience. Aïe, aïe, aïe. Et la vérité, c'est quelque chose qui est autre que moi. C'est une réalité. C'est pas éthérique. C'est pas vague. C'est, ah oui, la vérité. Ah, si c'est ça, c'est que tu dis, ouais, je crois que la vérité existe, tu fais un acte de foi. À ce moment-là, c'est un acte religieux. C'est pas un acte de l'intelligence naturelle. On est d'accord. Troisième petit examen de conscience pour savoir si je suis intelligent ou pas. On est tous intelligents, je vous signale. Bon. Donc, la règle, c'est que nous cherchons ensemble la vérité. Nous la cherchons. Et je dis bien, nous la cherchons ensemble. Et alors, comme on la cherche ensemble, il faut vraiment qu'on soit vis-à-vis de la vérité. Tous ici, là, on se trouve là, vous voyez, moi aussi, il faut que je sois là, je tiens à vous dire qu'en commençant, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Et vous ne savez pas non plus, c'est l'avantage qu'on a. Mais on sait une chose, c'est qu'on cherche la vérité. Ça, c'est le numéro un. C'est d'ailleurs pour ça qu'on supplie, on fait une prière avant, on a le droit de faire une prière. D'autant plus qu'ici, on est catho. Donc, les cathos ont le droit de chercher la vérité. Je vois pas pourquoi, si on est catho, on n'a plus le droit de chercher la vérité. On est catho. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas cathos ici. Bon, je ne connais pas tous les nouveaux visages, mais je vois qu'il y a quelques nouveaux visages. Mais en tout cas, je vais vous dire, tout le monde est invité. Ce n'est pas catho, on peut venir. On cherche la vérité ensemble. Ce n'est pas une question d'être catho ou pas catho. On cherche la vérité, c'est pour tous les hommes. Même le type foncièrement athée, s'il ne cherche pas la vérité, son athéisme est bête, par définition. Alors, donc premièrement, on cherche la vérité. Deuxièmement, nous n'avons aucun a priori. Et il faut détecter immédiatement. La vérité n'est pas une affaire d'opinion ou d'idéologie. Ce n'est pas nos idées. Je ne vais pas vous donner mes idées. C'est incroyable bien. Surtout pas. Et dès que vous détectez que c'est mes idées que je donne, mon père, est-ce que ce n'est pas vos idées, hein? Je dis, ah, très intéressant, pourquoi tu dis ça, tu vois? Bon, vous comprenez? Bon, mais faites-le sur un bout de papier, c'est, vous savez, c'est encore mieux. Parce que c'est peut-être votre idée que c'est mon idée. Alors toi. Non, mais simplement, je veux simplement comprendre que quand on fait la recherche philosophique, on cherche la vérité, il faut faire un effort d'ascèse, de pénitence, si vous préférez. Et cet effort de pénitence consiste tout simplement à dire il faut surtout que je ne rentre pas dans des a priori. On a plein d'a priori. On est bourré d'a priori. On a plein de trucs dans la tête qui nous parasitent la tête, qui font qu'on ne voit pas les trucs qui sont immédiatement accessibles à notre intelligence contemplative, à notre intelligence réaliste. Donc, notre souci ici, c'est qu'ensemble, si vous voulez, on va essayer de nous déganguer de tous nos a priori. Troisièmement, on fait de la métaphysique, donc on ne répète pas. Parce qu'on peut très bien avoir trouvé quelqu'un, on est sûr que lui, c'est un type en métaphysique absolument génial, et on va répéter bêtement ce qu'il a dit. Vous voyez ? Ça, c'est le contraire de la métaphysique. Vous voyez ? Notez bien cette expression. La métaphysique n'est pas imma de l'immaturité, n'est-ce pas? Immaturisi ma mentem peroquetans non metaphysice est. Celui qui répète, le répétant, le perroquetant, de la manière la plus immature qui soit, ce n'est pas un métaphysicien. Même si je répète quelqu'un très très intelligent. Même si je répète quelqu'un qui est sublime. Mais vous dites, mais finalement, mais notre métaphysique, mais c'est pas du tout ce que dit le père Marideau. C'est pas du tout ce que dit MDP. C'est pas du tout ce que dit Aristote. Mais Heidegger n'a pas dit ça. Comprenez ? On s'en fout. Moi, je m'en fous complètement de MDP, Aristote, Heidegger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Comprenez ? Je ne vais pas répéter cette manière stupide, perroquetante. Mot à mot. Me dit, mais moi, j'ai fait... Comprenez, j'étais à la Sorbonne. À la Sorbonne, j'ai passé mon agrégation de métaphysique. Ouais. En métaphysique. Livre d'état d'Aristote. Livre d'état d'Aristote. Ah oui, une fois, je fais comme ça quand je faisais la métaphysique. Un mec qui me dit ça, tu vois. T'es amoureux de ma soeur. Bon, c'est son problème. Bon, bon alors, bon, il me dit, ouais, j'ai passé mon agrégation. Bonne, machin, livre d'état d'Aristote. C'est-à-dire le livre le plus difficile philosophique qui puisse exister dans toute la tradition de sagesse, n'est-ce pas? Ah, je dis, mais dis-moi, tu l'as eu ton agrégation? Je dis, ah oh, ouais, bien sûr, j'ai l'agrégation, bon, très bien. Ah oh, ben, mes félicitations. Alors, tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu vois, justement, je sais pas, comment, justement, on fait l'induction, par exemple, de l'acte, tu vois? Alors, il commence à m'expliquer. Eh ben, il avait confondu l'induction de l'acte avec l'induction de l'alphusis. C'est grave. Bon, vous n'y comprenez rien, mais ça fait rien. Donc justement, c'est quelque chose. Il avait confondu, il avait répété ce qu'avait dit Aristote dans le livre Theta. Hein, mais en fait, il avait répété, et finalement, lui, il le vivait au niveau de qu'est-ce que c'est que la nature, les réalités naturelles. Quel est le principe qui est sous-jacent aux réalités naturelles? C'est la phusis, c'est la nature. Il avait confondu le point de vue de la perfection dans l'ordre de l'acte, dans l'ordre de l'être, et la détermination formelle, ce qui est dans tous les êtres qui sont dans le devenir et en mouvement. C'est gravissime, un type, il est agrégé. Et le mec qui lui a donné l'agrégation, il n'avait rien compris à la métaphysique d'Aristote, comprenez? Bon, ben je dis, ça va. Ça va. J'ai conseillé à ma sœur de le laisser tomber. Parce que, plus on est dentiste, c'est... Bon, ben je m'excuse, mais je... Bon, alors, très bien. Voilà, il m'a tué chez ma mentère, perroquet dentiste. Donc, troisième principe, il ne faut pas... on est libre. Ça ne veut pas dire qu'on va mépriser. Hein. On ne va pas mépriser MDP, Aristote et Heidegger, au contraire. Ah non, on ne les méprise pas, parce qu'eux, ils cherchent la vérité. Donc, tous ceux qui cherchent la vérité sont nos amis, comprenez? Voilà. Donc, pas d'a priori. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Bon, attention, évidemment, on ne va pas non plus faire de la blédine. Hein. C'est-à-dire essayer d'être très, 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 très au ras du sol. Hein. Non, non, sursum corda. On va essayer un petit peu d'élever le niveau, quand même, préférence. Parce qu'il faut quand même aboutir. Le but, c'est d'aller, comprenez. C'est pas d'essayer de réveiller notre cœur, comme on faisait l'année dernière, bon, ou de réveiller notre mémoire. Ontologique, comme on faisait il y a 2 ans. Ou de comprendre ce que c'était que le point de vue du corps, comme c'était il y a 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, etc., etc. Ou les 7 dimensions de l'homme, comme il y a 5 ou 6 ans. Non, non, cette année, il s'agit de découvrir la clé qui permet à notre intelligence de retrouver sa nature, son oxygène. Pour que comme je regarde comme ça ma femme, eh ben, je la regarde de manière contemplative, normale, naturelle. Naturelle. Je deviens intelligent. Intus legere, le contraire du perroquet tantis. Intus l'intelligence. Intus legere. Grâce à mon intelligence, je suis capable de lire ce qui est à l'intérieur des réalités. Le perroquet, lui, il répète extérieurement. Tandis que l'intelligence, elle pénètre, elle lit ce qui est à l'intérieur, malgré, ça s'arrête pas aux apparences, elle atteint la substance. Elle atteint ce qu'il y a de tout à fait radical, fondamental, ultime. Elle atteint le point au-delà duquel l'intelligence humaine ne peut pas aller. Et elle est sûre qu'elle atteint le point au-delà duquel aucune intelligence humaine ne peut aller. Elle en est sûre. Ah, c'est le but. Tiens, on va en baver. Hein? Non, mais vous inquiétez pas, on ne va pas en baver parce que c'est quand même vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Et je peux vous dire une chose, que c'est quand même quelque chose qui va permettre, parce que l'amour ne le fait pas, ceci, ce que je vais vous dire maintenant, avoir beaucoup de vertus, la chasteté, l'humilité, la générosité, etc. Les vertus qui permettent d'avoir un amour très profond ne donnent pas une autonomie à l'être humain. L'amour nous met dans un état de dépendance. Et plus on a des vertus, plus on est dépendant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement peur des vertus. D'humilité, de chasteté, de gratuité, etc. Parce que on cherche une autonomie. Du point de vue de l'amour, on cherche une autonomie. Vous comprenez ? Et pourquoi est-ce qu'on cherche une autonomie du côté de l'amour, alors que c'est l'intelligence et non pas le cœur profond qui donne à l'être humain cette autonomie? Pourquoi? Et tout simplement parce que l'intelligence ne fonctionne plus, elle ne donne plus cette autonomie. Et du coup, je vais aligner totalement, comprenez, toutes mes possibilités de déploiement en profondeur du point de vue de l'amour, parce que je vais chercher l'autonomie là où je ne l'ai pas. Comprenez? Je vais chercher du côté de l'amour et du coup je me replie sur moi-même. Et ce phénomène du repli sur soi-même, qui est un phénomène tout à fait contemporain, nouveau, spectaculaire, révolutionnaire, collectif, universel, catholique, eh bien, c'est un phénomène qui est la signature de la mort totale de l'intelligence humaine. Ça, c'est pas moi qui le dis, vous savez bien, c'est vous qui le constatez. C'est pas parce que tout ce que nous disons, il faut quand même que ça rejoigne notre expérience. Il ne faut pas dire, les gens sont pas intelligents. C'est nous. Toi, tu n'es pas intelligent. Moi, je ne suis pas intelligent. Pourquoi? Quand je ne suis pas intelligent, c'est parce que quand je me replie sur moi-même. Quand je suis intelligent, une liberté extraordinaire, une autonomie. Le contemplatif est libre et il est autonome. Cette liberté profonde de celui qui est philosophe, celui qui est métaphysicien, celui qui est contemplatif. Alors à ce moment-là, il n'a pas peur de dépendre affectivement de quelqu'un d'autre. Vous voyez bien ? À ce moment-là, le point de vue donc de la vérité et de l'amour peuvent s'embrasser dans notre vie concrète. Veritatis splendor. N'est-ce pas ? et pour atteindre cette vérité, fondamentalement. Il faut atteindre ce qui en moi est le plus vrai, et si je ne peux pas le faire autrement, je ne peux pas le faire avec mon cœur, je ne peux pas le faire avec l'affectivité, je ne peux pas le faire en peignant un tableau, ce n'est pas par le point de vue de l'art. Je ne peux pas le faire non plus en faisant beaucoup de politique, beaucoup de politique, beaucoup de politique, en ne faisant que ça. Parce que finalement, au bout d'un certain temps, je cherche l'efficacité, vous comprenez? À ce moment-là, je ne cherche plus tout la vérité. Hein? Je ne peux pas le faire non plus en disant, allez, je vais me réfugier dans la religion, et je me réfugie dans la religion, et puis là, je rentre, ça y est, dans l'absolu, je m'engloutis dans l'éternité, etc. Mais oui, mais attention, Hartung Cacahuète, si ton intelligence est foutue, comment tu vas faire? Pour rentrer dans l'éternité, mon pote, hein, par la religion. Tu vas tomber dans la mystique d'un mystico-dingo, tout simplement. Bon, alors attention, il ne faut pas que tu rentres non plus. Il y a plein. Tu vas trouver la vérité comment alors? Comment est-ce que tu vas trouver ton autonomie? Je tiens à vous dire que si on acquiert petit à petit, grâce à l'expérience concrète, une découverte dans l'ordre métaphysique, je vous affirme que vous commencez à découvrir ce que c'est que l'autonomie de l'être humain. À ce moment-là, vous êtes libre de pouvoir vous donner, vous livrer dans la gratuité de l'édification d'un corps mystique, d'une famille par exemple. Vous pouvez vous livrer à un autre sans crainte d'être détruit par lui. Vous pouvez rentrer dans la vie intérieure sans crainte de devenir mystico-dingo. Vous pouvez vivre dans la nature sans être englouti par elle. Voyez ? C'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez rentrer dans l'art. Vous pouvez devenir sculpteur, peintre, poète, musicien, sans que l'art soit tout pour vous. Sans vous identifier à votre œuvre, et sans tomber finalement dans l'insatisfaction. Alors, voyez bien, il faut donc faire de la métaphysique. C'est, j'allais dire, le devoir. C'est presque. J'ai pas envie de vous faire me faire l'avocat, vous voyez, hein, et puis dire. On va commencer tout de suite, hein, si vous voulez bien. Bon. Mais j'espère qu'en tout cas, et vous comprenez. Que c'est. Vous allez comprendre que c'est important. Au début, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'on. Je voudrais pas perdre mon temps avec ça, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de métaphysique? Je paume mon temps avec ces conneries, tu crois? Ça sert à rien! Ça sert à rien sur le point de vue de l'efficacité, ça sert à rien sur le point de vue affectif, ça sert à rien, sauf. De manière seconde, ça sert à ce que je devienne contemplatif et que je ne vive plus sur des idées, sur des a priori, mais je parte de la réalité existante. Il faut que je vive non pas du même, c'est-à-dire de moi, mais que je vive de l'autre. Ah, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Ce n'est qu'une impression, tu parles de toi. Et lui, il est fou amoureux de toi, mais toi, tu as l'impression qu'il ne t'aime plus. Ah, c'est quelqu'un qui est idiot, qui n'est plus contemplatif du tout. Le grand principe du philosophe, sinon c'est même pas la peine de commencer à réfléchir, hein. C'est même pas la peine de commencer à guérir, parce qu'on est malade. Le premier principe, c'est que si je veux être un homme ou une femme normale, pas un perroquet, pas une bande magnéto, je ne dois jamais m'appuyer sur mes impressions. Celui qui s'appuie sur ses impressions, c'est plus un homme. C'est une vache, c'est un hippopotame. Il s'appuie sur ses impressions. Celui qui s'appuie sur ses impressions, il est dans l'erreur. Toujours, hein, vous pouvez être sûr. Pas deux fois sur trois. Tout le temps. Mais là, c'est une affirmation que je vous fais, mais ce que je voudrais, je vous donner plein d'exemples, mais à chaque fois que je parle, vous voyez l'effort que nous devons faire tous, vous comme moi, c'est de référer à vos expériences. C'est ça l'effort métaphysique. C'est pas d'essayer de piger ce que nous disons, parce que là, je dis un petit peu tout ce que vous pensez, grosso modo, tout ça. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, c'est mon exercice. Si vous voulez. Je dis pas ce que je pense, je dis pas. J'essaie de traduire vos expériences. Mais donc, essayez de référer à vos expériences et en même temps aux miennes. Vous comprenez? Moi, je réfère aux miennes en même temps, si vous inquiétez pas. Essayez de voir. À chaque fois que je me suis appuyé sur mes impressions, je me dis, c'est pas exactement. Et puis j'ai découvert que c'était pas ça. Mais bien après, 20 ans après, c'était trop tard. Vous comprenez? Jamais s'appuyer sur ses impressions. Ça revient au même qu'il faut détruire tous nos a priori. C'est la même chose. Parce que les impressions, c'est affectif, les a priori, c'est idéologique. Pour non plus jamais non plus s'appuyer sur ses idées, parce que les idées, c'est lié à l'imaginaire. Il ne faut jamais s'appuyer non plus sur ses intuitions, parce que l'intuition est liée à le point de vue de ce désir de créer quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas le désir, et le désir, vous savez, est lié à l'instinct. Où est-ce qu'on va se barrer avec cette histoire? Alors... L'année dernière, nous avons vu, il y a 2 ans, nous avons vu la question de la mémoire ontologique. Et dans la question de la mémoire ontologique, nous avons vu que ce qui frappe, une des choses qui frappe notre manière de toucher quelqu'un d'autre que nous, de toucher Dieu, de toucher... la nourriture, de toucher quelqu'un qui nous parle, une parole, alors on s'aperçoit qu'on est blessé. Ça tous, on s'aperçoit qu'on est blessé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est marrant, il y a des parasites en nous, je considère. Et on avait vu donc il y a 2 ans qu'effectivement, il y avait comme une espèce de grand oubli. On est là et il y a un oubli de notre origine. On existe, j'existe. La première vérité, là où vous pouvez être à peu près sûr de ne pas vous tromper, parce que ça, quand vous dites j'existe, là, bon, je pense des choses qui sont justes. Ah, ça, c'est peut-être pas vrai. Ah, si tu dis je l'aime, ah, c'est peut-être pas vrai. Ah, ma peinture est belle, c'est peut-être pas vrai. Mais j'existe, ah, oh, ça, il y a des choses que tu sautes, tu commences à toucher quelque chose qui correspond à la vérité, il me semble, j'existe. Là, je suis sûr de ne pas me tromper, je rêve pas, j'existe. Je pense, attends, est-ce que tu penses? Parce que les gens, ils croient penser, en réalité, c'est tout simplement l'ordinateur qui fonctionne. Or, le travail de l'ordinateur, c'est pas de la pensée. Et quelquefois, c'est notre ordinateur intérieur. Hein. Quelquefois, c'est l'imaginaire. Ah, oh, je pense très très fort. Tu penses très fort. J'existe. Ah, j'existe. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Je prends, je me balade, je sors, je me réveille, je prends un bon Coca-Cola et je me promène. Je fais 50 km à pied en Lozère, je suis crevé, je trouve enfin un chêne, un arbre. Je prends le chêne, je le touche, et je dis que le chêne existe. Ce chêne, je suis sûr que ce n'est pas un mirage. Ce chêne existe, ceci est. Il existe. Alors, je peux me tromper en disant c'est un chêne, mais pas peu, c'est un boulot. Ah, sur ceci, c'est un chêne ou bien c'est un palmier, hein? Ah, bah, ça. Jamais, au moins, ça doit attendre David, peut-être passer par là, tu comprends? Alors, c'est la gare de Perpignan ou bien c'est la mort? Ceci, mais qu'il y a quelque chose qui existe, que je touche quelque chose qui existe, ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et je suis sûr que ça ne vient pas de moi, parce que boum, je le touche. Je vois que l'arbre, cet arbre-là, ce truc existe. Il y a quelque chose qui existe, là. C'est curieux. Vous pouvez regarder tous les autres jugements que vous faites. Tiens, c'est beau. Oh, il m'aime. Oh, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, Si tu dis que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est un a priori. Ça peut très bien, tu vas complètement couler. C'est très important pour les gens, par exemple, qui doivent s'engager, par exemple, dans le mariage. Parce qu'ils devraient quand même, avant de s'engager dans le mariage, savoir si leur amour correspond à la réalité. Et si cet amour existe. Et s'ils ne sont pas capables de savoir ce que ça veut dire exister, dans le point de vue le plus réel de la vérité, en dehors de mes impressions, mes opinions et mes a priori, si c'est pas ce que ça veut dire, le est, qu'est-ce que c'est que ce est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si il dit, c'est il y a quoi, il y a. Il y a moi. Il y a moi. Et je rentre dans un chêne, hein, dans un chêne, mais je rentre dans un chêne, je dis, ben, tiens, il y a un chêne. Et quand je dis, il y a un chêne, je regarde ce que je ressens, parce que je tombe dedans, je tombe dessus, je vois moi, et puis je vois le chêne là-bas. Et d'abord, est-ce que, vous voyez, je regarde pas que ce chêne, qu'il y a quelque chose qui existe. Vous comprenez ça? Quand je dis il y a quelque chose, mon intelligence ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, un chien, il se bute contre un chêne, il dit tiens, il y a un chêne. Je ne sais pas s'il dit il y a un chêne, mais il constate qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il passe à côté. Hein? Mais il ne va pas dire, il ne va pas s'arrêter au chêne. Bon, vous comprenez? Si, il va s'arrêter éventuellement au chêne pour pisser dessus. Mais pas pour voir qu'il existe. Vous comprenez? Ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il existe. D'ailleurs, il est bien incapable de savoir si c'est vrai que le chêne est vrai ou pas. Si c'est un poteau, il pisse dessus pareil. Vous comprenez? Tandis que ici, nous regardons, vous constatez, mais ça, réfléchissez, parce que vous avez un mois pour réfléchir là-dessus, hein, je vous préviens. Il faut que vous, pendant un mois, sans vous arrêter, à chaque fois que vous faites un jugement d'existence, vous êtes sûr que votre intelligence peut se réveiller. Parce que c'est le seul jugement sur lequel, à partir duquel vous touchez quelque chose qui est totalement autre que vous. Parce que si vous touchez l'arbre, je touche un arbre, eh bien, nous sommes un petit peu arbre. L'arbre, c'est pas quelque chose de totalement autre que moi. Parce que j'ai une vie végétative. Comme l'arbre. Il y a quelque chose de semblable entre l'arbre et moi. Mais entre mon être, le fait que j'existe, et le fait que la vie végétative existe dans les arbres, ça c'est tout à fait autre. Ça ne vient pas de moi, ça sûrement pas. Cette connaissance ne vient pas de moi, c'est le seul jugement. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de l'être et des lettres? Qu'est-ce que l'être? Ah, qu'est-ce que c'est que ce est, ceci? Et vous allez à la messe, et puis le prêtre dit à un moment, il prend l'hostie, et puis il dit que c'est Jésus qui le dit, hein, il dit que c'est Dieu qui le dit à travers lui, ça c'est son problème, il a la foi, bon, très bien, il peut croire ce qu'il veut, hein, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceci est mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, ceci, je vois bien, c'est une espèce d'hostie. Ceci, c'est une coupe avec du vin dedans. Mon corps, je vois bien, parce que oui, le corps du Christ, d'accord, je vois à peu près. J'ai une image dans ma chambre, je me mets à genoux, pas. Et vraiment sympathique, c'est vraiment un corps. Bon, mais c'est quoi Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la vie? C'est quoi ce est? Est-ce que ceci vit? Vitalise, puisqu'ils en sont sous forme de verbe, vitalise mon corps. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Est-ce que c'est vie qu'il veut dire? Non, parce que si c'était vie, je mets vie comme un verbe d'actuation, je vois ceci vitalise mon corps. C'est pas ça du tout que le prêtre veut dire. Ceci vitalise pas le corps du Christ. Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette... Pourtant, la vie, hein? Alors peut-être... Ah, peut-être vitaliser, ça va pas. Peut-être que... spiritualiser, peut-être. Spiritualiser, c'est pas peut-être. Ah, est-ce que c'est esprit? Est-ce que l'être, c'est l'esprit? Ah, si c'était l'esprit, donc ceci spiritualise mon corps. Mais mon corps, le corps de Christ n'a pas besoin d'être spiritualisé par un uberlu qui est une étoile, etc. Le corps de Christ, il est spiritualisé par lui-même. Il est spiritualisé par l'âme spirituelle, par la subsistance du Verbe de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pas spiritualisé. L'être, c'est pas l'esprit. Ah. Devenir, est-ce que S, c'est devenir? Ceci devient le corps du Christ. Est-ce que ceci, qui n'est pas le corps du Christ, c'est du pain, devient le corps du Christ, devenir? Exactement comme, un embryon devient adulte. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement. Est-ce que, il dit, ben voilà, ceci, whoop, Goldorak, transformation, corps du Christ, ça y est. Est-ce que c'est ça? Si c'était ça, vous voyez, est-ce que c'est ça? Devenir, est-ce qu'il y a un mouvement? Si c'était un mouvement, ça voudrait dire que la matière, la forme qui fait que la matière du pain a cette forme de pain, cette forme intérieure au pain, on ferait opérer à la matière formée par sa propre forme un mouvement pour le faire devenir corps du Christ. Or, vous constatez que c'est encore la même forme. Donc, il n'y a pas de devenir. C'est pas du tout le devenir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'ai compris. C'est symbolique. Symbolique, mais voilà. Mais oui, c'est symbolique. J'ai tout compris. Ah, c'est tous les théologiens complètement siphonnés, tu sais. Mais j'ai compris, c'est un symbole. C'est une image. Et voilà, il y a ceci, tu vois que c'est du pain. Et bien, imagine-toi que c'est le corps du Christ. Voilà, tout simplement. Est, c'est l'imagination. La métaphysique, c'est des logorées de gens qui sont malades, quoi. La métaphysique, c'est pour les gens malades. C'est pour les gens malades, c'est les gens qui ont je ne sais pas à quoi passer leur temps, et alors ils s'imaginent, je ne sais pas quoi, qu'ils rentrent dans un horizon tout à fait différent. Oh, la métaphysique, c'est snobisme, quoi. C'est un symbole, les mecs, c'est un symbole, tout simplement, c'est symbolique. Merde, c'est pas vrai, je vous affirme. C'est pas un symbole, parce que quand je me touche, je vois que j'existe, c'est pas symbolique, c'est réel. Je me touche, je vois que j'existe. Être. C'est curieux ce truc de l'être. Alors c'est quoi encore? C'est quoi ce est, hein? Vous comprenez? Il faut sentir ce truc, hein? Ah, si vous ne le sentez pas, là je vous plains. Il faut sentir que c'est la seule interrogation où l'intelligence est indépendante de l'affectivité, indépendante de l'imaginaire, indépendante du mouvement naturel, indépendante de l'âme, indépendante même des déterminations de l'esprit, indépendante des opinions de l'extérieur, des philosophies, des sages, indépendante des religions. C'est l'universel parfait. C'est là où je touche la réalité, où je suis sûr de toucher. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que je suis... L'intelligence est capable de s'ouvrir pour la première fois toute seule à son unique objet. Et si elle est capable de s'engloutir dedans pour l'intus leggere, n'est-ce pas? Pour lire leggere. L'intelligence, c'est intus leggere. De lire à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. J'existe, c'est tout, hein. Ne me posez pas de questions, toi. Je vois que j'existe, je vais pas plus loin. Moi, c'est votre truc, j'ai pas envie de me torturer le cerveau avec ça. Hein? D'accord? Ben, j'existe, d'accord. Ah, ok, j'existe. Hein, j'y crois. Justement, c'est pas une question d'y croire, c'est de voir que tu existes. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que ce être? Si tu n'es pas capable de saisir qu'il y a là quelque chose qui va vitaliser ton intelligence, nourrir ton intelligence, et que ton intelligence va, par réciprocité, pouvoir pénétrer dans le est pour savoir qu'est-ce que c'est que l'être, et tu vas pouvoir enfin rentrer dans la réalité. La seule réalité, la seule que tu es capable par ton intelligence de saisir de l'intérieur, indépendamment de toute autre détermination ou influence. Si tu ne t'habitues pas en ton intelligence à rentrer dans, justement, l'assimilation et la pénétration intérieure du Est, tu ne seras jamais contemplatif. Jamais. C'est impossible. Et tu seras toujours obligé de naviguer en fonction de tes... Ah oui, moi, tu sais, je navigue au radar. Et je t'assure, à chaque fois, par exemple, je rencontre quelqu'un, je dis, oh, c'est la première fois que je le vois, celui-là, mais j'ai tout de suite vu son truc. Et 10 ans après, je m'aperçois que c'est exactement ce que j'avais pensé au départ, tu vois. Ça, et je me... Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Je dis, ouais, je me suis pas trompé. C'est vraiment un salaud, celui-là. Je l'avais vu déjà, la première fois je l'avais vu, toi. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, je vous assure. J'en connais. Ça, c'est pire que le perroquet. Hein. Parce qu'il se fout dedans à 800%. Il a flanqué une étiquette extérieure en fonction d'une première impression extérieure. Il s'est interdit à tout jamais de rentrer dans la réalité de cette personne et plaque. Il est rentré dans le mensonge dès le départ. C'est un possédé. D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui vont voir les sorcières, les médiums. Tu vois, les médiums, ils ne te connaissent pas, ils t'ont jamais vu. Faut être timbré. Dites-moi, est-ce que par hasard, ce serait pas Dieu? Dieu? Mais oui, le divin. Dieu. Je suis. Ah, mais c'est génial. Mais oui, en effet, j'existe. Je touche Dieu. Dès que je vois que j'existe, je touche mon est. Je touche Dieu, ça y est les mecs. J'ai touché. Dieu et moi, c'est pareil. Imbécile. Est-ce que c'est toi qui as créé l'univers? Non, faut pas être idiot. Mais c'est ce que disent les Rosicruciens. Ce que disent les gnostiques, ce qu'on dit dans le Nouège. T'es une partie de Dieu. T'es une étincelle de Dieu. Tout ce qu'il y a de plus profond, plus métaphysique en toi, c'est une partie de Dieu, c'est divin. Tout simplement. N'importe quoi. Tous ces terroristes là dans leurs ateliers et compagnie, qui partent, qui flanquent en métapsychique, qui se déboutonnent tous leurs chakras. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, moi je suis devenu Dieu, ouais, c'est Dieu, ouais, c'est ça, le divin. Et puis en plus, j'ai eu le coma, j'ai connu la mort, je suis sorti dans le tunnel, pff, lumière, pff, là, j'ai compris, j'étais Dieu, ça y est. Ce qui est plus profond en moi, c'est Dieu, bah oui, imbécile, faut vraiment être cinglé. Il a confondu le principe. Alors, c'est pas la vie. Il a confondu le principe dans l'ordre de sa vie, qu'on appelle l'âme, et Dieu. C'est inouï. Être aussi idiot. Mais normal, il n'est pas métaphysicien. Il a confondu. Non, pas tout à fait. Je dirais pas ça, moi. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que il a confondu. Moi, je dirais, il a confondu la source, la cause, le principe du Est et la cause et le principe de la vie. En moi, il y a de la vie, quoi, c'est certain. Mais la source de ma vie, c'est mon âme. Et le fait que j'existe, j'existe. Mais ce n'est pas mon âme qui fait de source de mon existence. Il faut qu'il y ait une antériorité, une préférence. Alors mon âme, elle m'a été donnée simultanément à mon être, à mon existence. Alors, c'est pas tout le problème, n'est-ce pas? Donc, l'âme n'est pas source de mon être. C'est pas moi qui ai créé le fait que j'existe. Alors, il y a une cause, principe, laquelle il est, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est absolument évidente, c'est que c'est pas l'âme hein, qui est source du fait que j'existe. Ah, donc c'est pas Dieu non plus. Enfin, merdant tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, vous allez me dire, on n'avance pas avec cette histoire. Or, je vous dis que pendant 30 jours, jusqu'au 10 ou 11 novembre, je vous demande de vous poser la question tout le temps. Sinon, ça va être de l'hébreu pour vous. Hein, c'est-à-dire, j'existe. Faire un jugement d'existence. J'existe. Faire la différence entre ma vie, toute cette espèce de bouillonnement intérieur qu'il y a en moi, même dans sa source, qui est plus lumineuse, plus intime, plus profonde, plus intime de l'intime de mon intime, qui donne mon unité intérieure à toute ma vie. Et puis, le fait que j'existe, c'est tout à fait différent. J'existe. Et puis, la vie. Oh là, ça bouillonne là-dedans, la vie. Et puis, voyez bien, je suis obligé de fermer les yeux. La vie. Pour être concentré sur la vie, je suis obligé de fermer les yeux. Hein. Pour être exact, être honnête, n'est-ce pas? Être honnête, je suis obligé de fermer les yeux. Pour m'engloutir à l'intérieur de moi, où ça me grouille là-dedans. Et puis, pour voir que j'existe, je suis obligé d'ouvrir les yeux. C'est plus un rêve. C'est pas un rêve, c'est que j'existe. L'être et la vie, ça n'a rien à voir. Il faut que vous voyez ce que dit Aristote, celui qui n'a pas vu la différence infinie, absolue, entre l'être et la vie. Celui-là n'a pas commencé de faire vivre son intelligence de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais fait le premier acte d'intelligence humaine de sa vie. Moi, pour moi, ma vie, mon existence, c'est la même chose. Ah, si j'étais Hitler, moi, je vous prends immédiatement en camp de concentration. C'est plus des êtres humains à ce moment-là. Parce que votre intelligence ne saisit pas la différence la plus fondamentale qu'elle peut saisir. Quand tu commences à être intelligent, tu vois la différence entre l'être et la vie. Entre l'être et Dieu, c'est plus délicat. Entre l'être et l'aspiration, ce qu'il y a de génial en toi, c'est plus facile aussi. C'est assez facile. Mais vous voyez, entre l'être et l'esprit, c'est plus délicat. Ah ! Beaucoup de philosophes, beaucoup de gens ont perdu des années et des années en confondant le point de vue de l'être et le point de vue de l'esprit en eux. Beaucoup d'autres ont perdu beaucoup de temps en confondant le point de vue du divin et le point de vue de l'être. Bon, ce point de vue du devenir, ça je crois que... Hein ?
Il y a quand même
pareil. Tout change.
Héraclite. Lui, Héraclite attribue au devenir le même statut que l'être. C'est-à-dire qu'il attribue au devenir des caractéristiques.
Ah, voilà. Est encore autre chose. Est-ce que l'être, ce ne serait pas le tout, Héraclite, hein?
Le tout ça.
Panta. Tout bouge, tout change. Il se met au bord d'un fleuve, vous savez, c'est un ermite, hein, Héraclite. Donc il avait du temps, ça. Comme tous les ermites, ils ont du temps, vous savez. Alors il s'assied, il se prélate, c'est là, il a la nature. Il dit, ben voilà, je reste là. Il médite, hein, le soleil est là. L'instant d'après, le soleil est là. Il dit, merde, déjà passé 8 heures. Ça change. Il se passe au bord d'un fleuve, l'eau coule. L'eau que je touche ici, pof, c'est pas la même une seconde après. C'est une autre eau. Le fleuve coule. Tout est comme ça. Tout coule. Pareil. N'est-ce pas? Tout coule. Ça, c'est la grande phrase d'Héraclite. L'ermite, c'est le premier qui a essayé de réfléchir en disant qu'est-ce qu'il y a au fond? Et au fond, finalement, ben oui, c'est le mouvement, le devenir, c'est ce qui est en dessous de toutes les réalités. Le devenir. Et alors, tout. Voilà. Ah, est-ce que j'existe? J'existe, je suis. que je vois que je suis, cet être a quelque chose de stable, hein, enfin, est en dessous de tous les mouvements, indépendant de tous les mouvements. Les mouvements me mettent toujours dans l'instabilité, tandis que là, c'est stable. Mais oui, c'est ça. Mon être, ce serait le tout. Ah oui, ça aussi, c'est ce qu'on appelle du panthéisme, vous savez ça. Les manichéens, n'est-ce pas, les bouddhismes, hein, le bouddhisme, il confond l'être et le tout. Le bouddhiste, c'est une erreur philosophique. Parce que quand je vois que j'existe, l'être que je touche là, c'est pas le tout. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, mais je tiens absolument à rester intelligent. Alors, c'est du bon sens que quand je vois l'être que je suis, j'existe, c'est pas le tout. Je suis désolé. Moi, je reste intelligent. Je veux rester intelligent. Je veux garder le bon sens de l'intelligence native qui part sans aucun a priori. Sans aucun a priori, on me dit, ah, regarde, tu existes, ça y est, j'ai touché le tout. Mais je dis, oui, cinglé. Si j'ai du bon sens, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Le type, il dit ça, ma chérie, je t'aime. Ah, il te caresse le visage. Il dit, ça y est, j'ai touché le tout. Je dis, non, moi, je suis cinglé. Il vaut mieux qu'il aille draguer quelqu'un d'autre. Hein? Bon, voilà. Alors, eh oui, ce sera une œuvre de bon sens. Tu réagiras dans le bon sens. Tu vois? Eh oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, alors, donc, voyez, l'être. Pendant un mois, en fait, c'est très très important cette histoire, de bien regarder. Ah, ah oui. Ah, mais alors il y a aussi un autre truc, ça pourrait être quelque chose qui est indépendant du mouvement, indépendant du tout, différent de Dieu, différent de tout ce qui est vécu, imaginé, etc. Ben, est-ce que ce ne serait pas quelque chose en moi que je touche et qui correspondrait à une réalité fait que je sors du monde spatio-temporel, spatio puisque c'est pas le devenir, temporel puisque c'est pas le tout, et que c'est pas, oui, pardon, oui. Et bon, en dehors du monde spatio-temporel, et je touche la jonction entre mon origine et ma fin. Ah, ça c'est une question intéressante. Ça. Je sors du magma temporel. Je sors du magma spatial, je sors du mouvement. C'est pas Dieu, mais je touche quelque chose en moi qui correspond à la fois à mon origine, à la fois à ma fin. Qui n'est ni dans le temps, ni dans l'espace. Ah! Alors je confonds, je tiens à vous le dire tout de suite, donc ici, comment est-ce que j'atteins mon origine? Tu te rappelles de ton origine? Toi, oui, toi, tu te rappelles de ton origine? Ah oui, oui, je me touche, j'existe, et ah, ça y est, je me rappelle de mon origine. Est-ce que c'était... Non, mais quand tu fais un jugement d'existence, j'existe. Et ça y est, je commence à me rappeler mon origine. Non, d'accord, tu vois. Donc c'est ici cette question, la réponse est non, bien entendu, puisque l'origine est une activité qui s'atteint. Ben, j'ai oublié comment j'étais dans l'origine. C'est une activité de la mémoire. Ici, donc, la mémoire ontologique, ce n'est pas non plus l'être. Ah, là, 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 là. Alors, pour tous ceux qui étaient là les années précédentes, ils comprennent tout ça, puisque nous avons étudié à fond toutes ces bulles. Toutes ces bulles, c'est extraordinaire. Toutes ces bulles, ah ouais, ouais, maintenant, pour nous, elles n'ont plus aucun secret, n'est-ce pas, si je puis dire, oui.
Un des...
Alors on va, oui, oui.
Platon d'une certaine manière.
Occam, bon. Ça c'est à ce moment-là, on sort de notre recherche à partir de l'expérience et on essaie de regarder comment les autres ont parlé de l'être.
C'est juste pour savoir s'il y a des gens qui concrètement ont confondu dans l'histoire de la philosophie.
Non, mais c'est pas Occam le premier. Occam, lui. Il dépend de Scott quelque part, il dépend de Avicenne, il dépend de Henri Dogan. Donc tu vois, d'abord tu as eu Thomas d'Aquin, tu vois. Bon, et puis à partir de Thomas d'Aquin, Henri Dogan, et puis ensuite Henri Dogan, bon, il a mal compris. Don Scott a voulu formaliser, faire une métaphysique catholique, tu vois, en disant, ben, je vais prendre tout ce que dit Thomas d'Aquin sur l'être, sur l'essai. C'est-à-dire sur l'être. Alors je l'avais, tiens, j'avais mis ici l'être là. L'être. l'être. Attention, j'espère que vous voyez la différence. Vous avez remarqué hein, que j'ai, depuis une heure, qu'est-ce que je fais? Je n'arrête pas de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce est? Qu'est-ce que c'est que ce existe? Je n'ai pas dit, qu'est-ce que c'est que l'être? Et tout le problème de Don Scott, qui était un franciscain, donc vous voyez, c'est pas parce que vous êtes moine que vous êtes nécessairement philosophe, hein, eh bien, il dit, la métaphysique, c'est le point de vue de l'être. Mais non. L'être, c'est quelque chose qui est formalisé par mon intelligence. J'ai abstrait de est quelque chose que j'ai formalisé parce que je vois que j'existe, je vois que toi tu existes, je vois que l'univers existe, je vois qu'il y a une multitude de jugements d'existence que je fais, une multiplicité considérable de jugements d'existence que je fais. Et en même temps, je vois que ça, j'aboutis toujours à la même chose, à quelque chose qui a la même signification. Alors, dès que j'ai diversité et unité, je fais une induction fondamentale qu'on appelle l'abstraction. Et le fruit de mon abstraction, c'est que je finis par concevoir l'être. Mais c'est moi qui fais naître le point de vue du concept d'être à partir de l'abstraction. Et Don Scott, lui, il ne regarde plus le jugement d'existence. Il regarde uniquement l'être, l'essai. Le verbe, ce que j'ai conçu après le jugement d'existence pour essayer de me poser la question, qu'est-ce que c'est que ce est? Il ne dit plus qu'est-ce que c'est que ce est, que je touche là. Autrement dit, il court-circuite. Un, le jugement d'existence. Deux, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que ce est? Trois, donc, l'attitude affective, amoureuse, de la recherche de la vérité. Il ne cherche pas la vérité. Don Scott ne cherche pas la vérité. Saint Thomas a dit ça, donc c'est comme ça. Il répète perroquet en pis, il maturise ma main. Ça. Et perroquet, il dit, c'est 14, Saint Thomas l'a dit, Saint Thomas d'Aquin, donc je répète. Henri de Gand, il a commencé à tordre Saint Thomas, vite, il faut sauver Saint Thomas d'Aquin, tac, tac, il faut sauver la métaphysique catholique. Métaphysique catholique, non mais t'es timbré, c'est pas parce que t'es catholique, du coup t'es métaphysicien. C'est indépendant, tu es protestant, même si tu es... bon. Ouais, alors donc, je cours, et il ne cherche plus la vérité, comprenez? Donc l'attitude affective d'amour de la vérité n'y est plus. Ceci est... Alors tandis que là, il faut que vous arriviez à réveiller toutes ces, tout ce que l'esprit en vous, tout ce que le nous, l'attitude noétique en vous, contemplative, humaine, absolue en vous, cherche à s'épanouir, qu'enfin vous ne soyez plus dans l'erreur métaphysique, ni dans l'erreur dans l'ordre de l'amour, ni dans l'erreur dans l'ordre de l'appréhension de l'autre, de la matière, de la nature, de Dieu. Vous pouvez être plus paumé, quoi. Il y a des gens qui aiment être paumés, parce que comme ça, ils planent. Eh oui, c'est pour ça. Parce que je regarde la télé 8 heures par jour, et après, quand je suis dans la réalité, comment je vais faire pour m'en sortir? En planant. En planant. En disant, je suis sûr que je l'aime, etc. Je plane. La télé qui continue. Comprenez? L'imaginaire. L'artiste. Patatouloup. Mais ça, c'est pas des artistes. Un artiste, c'est un homme. Debout. Une femme. Comment? Alors, il tombe amoureux. Mais c'est pas de l'amour humain. C'est de l'amour plastique. Oui. Mais que tu mettes, mais que tu mettes l'odeur de cacahuète ou l'odeur de praliné, c'est pareil. Je veux dire, c'est toujours aussi bête. Et tu chopes aussi d'appareil. Bon, alors, vous savez, il faut prendre la réalité. C'est quand même vachement important, enfin. Je vois pas pourquoi on vivrait trucidé du point de vue de l'humain, de l'intelligence. On est. Mais ça, c'est pas les cathos qui sont les spécialistes de la question. Tout être humain doit sauver l'humanité. Son humanité. Commence par celle parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc commence par le jugement d'existence. Il y a 3000 ans hein, de métaphysique, de sagesse qui t'indique que c'est la seule porte de sortie. Alors peut-être que tu es plus intelligent que les 3000 mecs qui ont ramé telle la galère. Ah, libre à toi, hein, ça c'est ton problème. Ça veut dire que tu es au-dessus. C'est comme Dieu, quoi. Oui, pour toi, ton existence, c'est Dieu. C'est ça, les gourous. Ah, est-ce qu'un gourou, c'est un homme? Non. C'est un homme, mais enfin, il n'agit pas humainement. Alors, donc, Duns Scott, tu comprends? Il dit, il court-circuite le jugement d'existence. L'étonnement, mais c'est étonnant ce truc-là. C'est ni ça. C'est un truc, mais c'est curieux ça. Et en plus, si je suis chrétien, si je suis catho, le Christ qui pour moi est important, c'est le type, si je suis catho, comprends, c'est quand même le mec le plus balèze, quoi. Ben, lui, il va axer. À partir du moment où il va partir, il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il dit, démerdez-vous avec ceci et mon corps. Merde, non, ça là. Qu'est-ce que c'est que ce est? Si, il reste plus que ça. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Ceci est mon corps. Mais il y a un truc là-dedans. C'est étonnant. Mais c'est quoi ce est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'y comprends rien. Je peux rien comprendre. Ah, je ne peux rien comprendre, c'est un a priori. C'est un a priori. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que ce est. C'est un a priori. La métaphysique n'est pas possible, Maurice Clavel. Kant. La métaphysique est terminée, Kant, n'est-ce pas? La métaphysique est impossible, Maurice Clavel. La métaphysique est dans l'erreur, Heidegger. Ah, Heidegger, oui. Ah, Heidegger, tiens. Voilà, tiens, voilà un qui est vraiment génial. Et alors, vous savez, c'est un des philosophes que j'aime le plus, c'est Heidegger. Et c'est celui qui a le plus influencé, de très loin, sachez-le, beaucoup plus que Freud, Sartre, Marx, Lénine, Lacan, Brunswick, Whitehead, etc. Même Descartes, c'est un petit poussin à côté. Heidegger, vraiment, il remplit toutes nos universités occidentales. Heidegger, comme ça, madame. Deux G, comme grossier, n'est-ce pas? Mais ça veut dire... En plus, j'en suis pas sûr que ce soit deux G, je veux dire... Oui, deux G. Voilà. Et là, Heidegger dit, mais après tout... Ce est, je le saisis dans un ceci, j'existe, je existe. Mais c'est à cause de ça que j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Supprimons tous les ceci, les je, les ceci, les machins. Il ne supprime pas toutes les erreurs, toutes les projections de l'être imaginatif. Il supprime tous les supports existants. Et c'est là que Est apparaît. Donc, Est. Et voilà, j'ai compris ce que c'était. C'est le néant. Puisque c'est la néantitude, n'est-ce pas? La néantitude du Dasein qui permet de découvrir l'être, la letheia de l'être, la vérité sur l'être. C'est que c'est sur un fond de néant préconceptuel. C'est tout à fait préconceptuel. C'est pas mon intelligence qui l'atteint. C'est pas l'esprit qui l'atteint. Rien. C'est antérieur. Et c'est sur un fond de négation. Et d'une négation de tout. C'est pas le tout, c'est la négation de tout. Alors ce que Heidegger, bon, est-ce qu'il ne confond pas donc l'être et la relation de créateur à créature qui est en moi? Parce que effectivement, quand l'être premier a créé quelque chose qui existe, il l'a créé à partir de rien. Ça, c'est sûr. À partir de rien, à partir du néant. Ex nihilo. Et est-ce que Heidegger ne confond pas le point de vue du Est et le point de vue de la relation entre le créateur et la créature? Alors, donc, il confond le point de vue de l'être, à ce moment-là, avec un accident. On verra ce que c'est qu'un accident. Parce que c'est accidentel. La relation. Je suis en relation avec toi, c'est accidentel. C'est pas substantiel. Même si je suis pas en relation avec toi, j'existe. Ah, il va me dire, oui, mais attention, si je ne suis plus en relation avec Dieu, du point de vue de l'être, je n'existe plus. Ah, vous voyez bien qu'il confond la relation et l'être. Ouais, c'est pas si facile que ça. Hein? Si, c'est facile de voir que tout ça, c'est pas juste. Alors, nous, notre truc, c'est qu'on va pas paumer un temps fou à regarder ce que Hegel a dit. Hein? Ça, je vous libère de tout ça. Ça, c'est alors là, vous allez m'embrasser les pieds à la fin de l'année, les mecs. Ça, je vous jure. Parce que je peux vous dire, non, sans rigoler. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été passionné par la philosophie. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par la philosophie. Dès que j'ai découvert la philosophie, etc., je trouvais ça génial, tout ça. Et puis, bon, j'en ai fait, jusqu'à ce que j'arrive en 1980. Ben ça, donc, de 1967 à 1980, je faisais beaucoup de philosophie. Ça fait combien d'années, ça? J'ai paumé combien de temps? 13 ans! Oh là là! Et puis, au bout de 13 ans, pour la première fois, j'ai fait un jugement d'existence. Pendant 13 ans, j'ai scruté Sartre, j'ai scruté Mounier, j'ai scruté Hegel, j'ai scruté Kant, j'ai scruté tous ces idéologies. Bon, de toute façon, je les aimais pas. Hein. Je les aimais pas. C'est vrai que je les aimais pas. Parce que dès que tu rentres dedans, tu t'aperçois que c'est dur à comprendre. Et c'est tordu aussi. Or, l'intelligence n'aime pas ce qui est tordu. Elle aime quand même quelque chose. Elle est attirée par quelque chose. Elle est attirée parce que ces mecs-là, ils cherchent quelque chose. Mais ils ne le trouvent pas. Et au bout de 13 ans, je peux vous dire qu'on en a la conviction absolue et qu'eux-mêmes en ont une conviction éperdue. Et ils le disent, d'ailleurs, en fin de parcours, c'est pas souvent. Et pour la première fois, je fais un jugement d'existence. Et j'essaie de comprendre. Grâce à quelqu'un qui va essayer de m'aider, on était plusieurs d'ailleurs, c'était un amphi entier, un amphi de métaphysique, en Suisse. Et comme dit Heidegger, une fois que tu as le souci de l'être, tu es. Le premier existentiel pour Heidegger, c'est le souci de l'être, cette angoisse, jusqu'à ce que j'ai trouvé la vérité, la réalité, que j'ai touché, ça y est, mon autonomie y est. Ce souci, cette angoisse métaphysique, le premier existentiel, le premier élément de l'anthropologie métaphysique de Heidegger. Alors à ce moment-là, je vais à la recherche et d'un seul coup, je saisis. Ah, il y a quelque chose là. Je touche qu'il y a quelque chose. Quoi? Je ne sais pas encore, mais ah, j'ai fait un jugement d'existence. J'ai touché l'être. Je me suis dit, ça existe. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Alors là, il y a le Verstandung, le Verstehen de l'être. Vous comprenez? Le Verstehen, cette espèce de compréhension, de pouvoir rentrer à l'intérieur pour comprendre ce qu'il y a caché dans cette vérité, nous toutes nues. C'est le deuxième existentiel, cette espèce de compréhension. Mais c'est une compréhension qui dépasse toutes les compréhensions. C'est une compréhension préconceptuelle. Vous comprenez? Foutez-moi en tant que l'être, la conceptualisation, dit Heidegger. Balancez-moi Don Scott, Suarez, Occam. Pour Heidegger, vous comprenez, ça ne va pas à tous ceux qui ont parlé de l'être depuis Parménide. Aristote, saint Thomas d'Aquin, Suarez, donc Occam, le grand salisseur de la métaphysique, le grand destructeur de l'intelligence, c'est pas Descartes. C'est Occam. Mais Descartes s'est immédiatement fait disciple de Occam, évidemment. Bon, ça, d'accord. Hein? Pratiquement aussitôt. C'est-à-dire qu'un imbécile, on le sait. Un aveugle conduit un autre aveugle. Mais du coup, il tombe dans le même trou. Voilà, donc mais Heidegger dit, non, vous ne pouvez pas saisir le point de vue de l'être à partir de la conceptualisation que vous m'avez fait. C'est dans la réalité de l'être que vous le trouvez. La réalité de l'être, c'est si vous vous séparez. Mais alors, donc, c'est à partir de... Mais donc, finalement... Donc vous savez, vous commencez à rentrer, il faut rentrer, mais c'est pas avec votre intelligence finalement pour Heidegger que je vais comprendre le point de vue de l'être. Je vais simplement m'approcher du dévoilement de l'être, mais jamais je pourrai rentrer dedans. C'est le deuxième existentiel de toute l'anthropologie. Je commence à devenir contemplatif quand je suis dans une quête de la compréhension de quelque chose que j'ai touché quand même. Hein. Je l'ai touché. J'ai touché quelque chose. Je ne le comprends pas, mais je suis en quête de le comprendre. Et pour Heidegger, on ne peut jamais le comprendre. Je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai. Parce que ça fait maintenant, 1980-1995, ça fait 15 ans que je comprends chaque année beaucoup plus que l'année précédente. Et je peux vous dire qu'on va très très loin dans la compréhension. On comprend beaucoup plus de choses dans ce Est que dans une personne humaine. Or Dieu sait que c'est intéressant de connaître une personne humaine. Et c'est ce que justement... Et justement, une personne humaine, elle est personne humaine, pourquoi? Parce que le Est fait l'unité en elle, entre son mystère, son devenir, son corps, sa vitalité, son âme, son esprit, son origine, sa fin. C'est le Est qui fait l'unité entre tout ça. Ça, c'est extérieur au Est. Mais n'empêche que c'est bien le Est qui le fait. Et pourtant, la métaphysique consiste à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, pas ce qu'il y a à l'extérieur du Est. Et toute cette année, ce sera que j'essaye de vous transmettre des voies d'accès. Je ne pourrais pas le faire à votre place, hein. Mais je vais vous transmettre des voies d'accès pour essayer de rentrer là et de piger ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui détermine formellement, absolument, fondamentalement, l'être de l'intérieur de l'être. Oh, dis donc. Et puis, vous voyez bien que ce n'est pas compliqué. Bon, que personne ne me dise que j'étais compliqué jusqu'à maintenant. Le niveau ne sera pas plus élevé. Parce que justement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit j'existe, c'est tout. Et ça, c'est intéressant. C'est la seule chose que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'ai rien dit d'autre. Hein. Celui qui dit que j'ai dit quelque chose d'autre, parce que ça, je donne un coup de pied aux fesses. Parce que j'ai rien voulu dire d'autre. C'était bouffon, voilà. Le reste, c'était bouffon. C'est guignol. Alors, même c'est vrai en plus. Bon, mais bon, allez, alors pourquoi est-ce que... Ah oui, deuxième existentielle d'Heidegger, cette Verstandnis de l'être. C'est comme ça qu'on dit en allemand, Verstandnis. Et là, du coup, troisième, une fois que j'ai touché l'être, que j'ai touché qu'il est compréhensible, mais que dans l'état dans lequel je suis, je ne rentre pas dedans, ça c'est son problème et c'est son tort, c'est parce qu'il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Heidegger... C'est ce qu'on verra. Justement, je voudrais regarder avec vous la pensée moderne sur le point de vue de l'existence. Parce que la pensée moderne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est heideggerienne à 100%. Elle est allemande. C'est très important de comprendre la pensée allemande, parce que sinon on ne comprend pas la détresse absolue de l'humanité contemplative d'aujourd'hui. Il faut la saisir de l'intérieur. Ça ne veut pas dire... Or, Heidegger est quelqu'un de très intéressant parce qu'il fait sauter toutes les erreurs dans la quête métaphysique dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et il dit... Donc, c'est vraiment lui qui réveille la quête métaphysique. Et en même temps, il dit... Ah, c'est impossible. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi est-ce que le monde est angoissé, hein? C'est ça qu'il faut et c'est impossible. Ah non, alors c'est pour ça que tous les intellectuels, les Glucksmann, les Clavel, les machins, même nos évêques, par exemple, je pensais à un évêque que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je parle en philosophe, je parle pas en croyant, je parle en philosophe, quelqu'un comme par exemple Monseigneur Lustiger, il est heideggerien. Il a été guérien. Tout simplement, il a été guérien.
Est-ce que le pape n'est pas un peu heideggerien?
Non, le pape, il est... Je ne sais pas, personne et acte. Est-ce qu'il a été guérien dans personne et acte? Est-ce qu'il a été guérien dans Veritatis Splendor?
Non, il n'y a rien.
Non.
Est-ce qu'il a été guérien dans Amour et responsabilité? Oui.
Oui.
Ah oui. Ah oui. Et unité responsable, je peux, vous comprenez? Parce que c'est une vérité ontologique qui n'est pas touchable par un jugement d'existence. Tout à fait, heideggerien. Il est quelquefois heideggerien, il est quelquefois réaliste, il est quelquefois théologien. Bon. Mais en tout cas, le point de vue heideggerien est quelque chose de très 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 important. C'est pour ça, moi j'aimerais bien que vous ayez entendu au moins une fois ce qu'il dit Heidegger. Parce que vous allez voir que finalement, c'est vous. Vous pensez comme Heidegger. Votre intelligence, elle est... J'aimerais bien, je voulais le faire aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, on le fera la prochaine fois. Mais ce que je voudrais, c'est vous faire découvrir une chose, c'est que votre manière de comprendre ce est-là, c'est la même manière que Heidegger. Vous êtes heideggerien et vous ne le saviez pas. Et ça, j'aimerais beaucoup vous le faire découvrir. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez la vérité sur le point de vue de l'être. Vous cherchez la vérité. Et en même temps, vous n'avez jamais pigé qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pour vous, jusqu'à maintenant, c'est impossible. Vous n'avez jamais réussi. Vous êtes heideggerien. Puis, c'est pas le temps. Puis, votre existence, c'est un existentiel, ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. À partir d'aujourd'hui, pendant 30 jours, c'est différent, puisque vous avez un témoin de l'être qui rentre dans le troisième existentiel d'Heidegger et qui dit, vous le touchez, faites un jugement d'existence, vous touchez bien quelque chose. Et je vous affirme que vous pouvez rentrer dedans, de la même manière que je peux te toucher et en avoir la certitude, je peux rentrer et mon intelligence peut saisir quelque chose d'intime au point de vue de l'être. Et je commence à me réveiller par le point de vue de l'intelligence contemplative. Je peux vous affirmer qu'au bout de 13 ans de philosophie, j'ai fait cette année-là, j'ai appris dans cette année-là, beaucoup plus, sans aucune comparaison, en philosophie que dans les 13 ans qui précédaient. Mais sans aucune comparaison. Parce que toutes les positions philosophiques ou idéologiques dépendent de la manière dont je considère le point de vue de l'être. Donc si je saisis moi de l'intérieur comment, en pleine philosophie réaliste, à partir de mon expérience, je saisis l'être tel qu'il est, de l'intérieur qu'il est, et en tant qu'il est, à ce moment-là je commence à comprendre toutes les autres pensées qui sont tombées dans les travers qui sont là. Et je comprends tout, j'ai la clé. Ah, c'est un autre problème, ça c'est un problème critique, hein. C'est pas un problème métaphysique, d'avoir la clé pour comprendre les autres. Ça c'est un problème, on appelle ça la critique, il faut que vous sachiez, c'est un problème critique. Je suis capable de voir comment fonctionnent les autres, l'intelligence des autres, face à cette interrogation. Et attention, de préférence, en étant pratiquement sûr de ne pas me tromper. Enfin, on l'espère, parce qu'on n'a pas d'a priori. Hein. Mais enfin, quand même, pour la première fois, ça je peux vous... Alors, du coup, on rentre dans le troisième existentiel de l'être, d'après Heidegger, c'est la proclamation de l'être. Pour lui, la proclamation de l'être, c'est quelque chose de très important. C'est les trois existentiels. Il y a trois éléments qui, pour lui, vont tourner autour de l'être, autour de ce est. Premier élément, le souci, l'angoisse. Deuxième élément, le Verstandnis, la compréhension de l'être. Et enfin, là, l'aletheia, la proclamation. Non, c'est pas tout à fait l'aletheia, c'est la proclamation de l'être. Je vais crier l'être. À partir du moment où je l'ai trouvé, je rentre dedans, je dis, ça y est, ah oui, ça y est. Et aussitôt, comme je crie à l'intérieur de l'être, c'est une proclamation. Très fort Heidegger. Et il dit, celui qui n'est pas rentré successivement dans ces trois éléments de l'anthropologie de l'ontologie fondamentale ne sait pas ce que c'est que l'anthropos métaphysique. Il ne sait pas ce que c'est que l'homme. Et les penseurs d'aujourd'hui pensent comme lui. Monseigneur Lustiger, peut-être des évêques, Glucksmann, c'est pas. Et tous les grands penseurs, tous les grands pontes, etc., qui maîtrisent toutes nos arts, toutes nos pédagogies, tous nos gouvernements, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont quasiment tous, mais heideggeriens. Les théologiens aussi. Bultmann. Voilà, c'est lourd, parce que c'est l'angoisse, vous comprenez, c'est le souci. La théologie du souci et de l'angoisse. Et alors, du coup, il faut que je comprenne cette angoisse. Alors, je vais comprendre l'est, je vais comprendre l'angoisse. Voilà. Et alors après, je vais proclamer cette angoisse. Oui, ben, ça, ben. Ça ben, évidemment, parce que pour un théologien, Dieu remplace le est. Donc, si je suis un dégaillant en théologie, je remplace ici Dieu, Je mets Dieu, Jésus, et j'arrive pas, mais je le proclame quand même. C'est ça, être avec des guerriers en théologie. Et je vous dis que c'est fatigant, hein, parce que moi j'en ai fait de la théologie. Vous êtes avec des... comme ça, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, si je vis ces trois, à ce moment-là, je prends un critère oblique, et je comprends que grâce à ces trois, il y a quelque chose du Est que je touche. L'aletheia de l'être. Le dévoilement de l'être, la vérité sur l'être. Il y a quelque chose qui va dévoiler. Mais, c'est préconceptuel, et c'est quelque chose qui me fait comprendre que c'est sur fond de néant que se dévoile le point de vue de l'être. Et que du coup, finalement, on arrive à un souci, et que c'est ça, finalement, la recherche de l'être, ce souci, cette quête, cette recherche de la vérité. À la fin de sa vie, ça, c'était Sein und Zeit, hein, c'était dans son début, ça. Et puis, après, il va y avoir, chez Heidegger, il va y avoir, à la fin, il va quand même dire, c'est quand même, c'est à l'été, il faudrait quand même qu'on puisse non seulement toucher le point de vue du Est, indépendamment des soucis, indépendamment des étangs. Il faudrait qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Et il voit que c'est le Est dans le ceci, ça c'est le Dasein. Quand le Est est lié au ceci, c'est le Dasein, c'est l'étang. C'est une réalité existante, c'est le Tohoti d'Aristote. Le fait d'exister, le Dasein, l'étang. Par exemple, tu vois, bon, ça m'est... Tu es là. Voilà. Ça, c'est... Tu es un étang. Alors, si tu vois que je suis là, mon existence est là. Alors, il dit, ben voilà, à chaque fois que je fais un jugement d'existence, c'est toujours lié à l'étang. C'est jamais en dehors de l'étang. Alors si je voulais prendre le S tout seul, il faudrait que je supprime l'étang, mais j'arrive jamais à trouver un truc à supprimer. Si je supprime l'étang, je ne peux plus faire jugement d'existence. Tu vois le problème d'Heidegger? Bon, je ne sais pas si tu vois, mais tu comprends bien. Tu peux faire jugement d'existence parce que tu peux te toucher. Tu dis, mais oui, j'existe. Hein. Mais si tu te supprimes... Donc si tu supprimes le support de ton jugement d'existence, tu n'as plus le S sous les yeux. C'est pour ça qu'il dit, il faut supprimer tous les étangs pour trouver le être. Mais ça, tu n'en fais pas l'expérience. Jamais. D'accord? C'est le problème de Heidegger, ça.
Mais ça n'est pas ce chemin-là de trouver Dieu, puisqu'il n'a pas d'étang.
Alors, est-ce que Dieu est un étang? Parce que, est-ce que Dieu a un suppôt? Est-ce qu'il y a un support à l'existence de Dieu? Et si? Mais il se trouve que le support de l'existence de Dieu, c'est son existence. Mais n'empêche que c'est l'être dont l'existence est le suppôt. C'est un sujet quand même. La preuve, c'est que tu dis, Dieu existe. Donc c'est un étang. Ici, moi j'existe, je suis un étang particulier, je suis un étang limité, je suis un étang fini, et lui c'est un étang infini, c'est tout. Mais c'est Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a Dieu qui existe, ok? Donc l'être, il est en Dieu, mais l'être, il est aussi en moi. Et moi, je ne suis pas Dieu. Ce qui montre bien qu'il y a un support pour moi, un support pour lui. Mais je veux supprimer même l'existence de Dieu. Je veux regarder être seulement. Parce que tu vois, ce que tu dis montre que tu t'orientes dans cette direction-là. Est-ce que l'être, c'est pas Dieu? Ah, c'est le problème de Heidegger. Et tu as parfaitement raison de relever ça, parce que si tu arrives à l'interrogation, à quelque chose que je ne peux pas atteindre dans le point de vue de l'ontologie, sur fond de néant et derrière le néant, parce que c'est Dieu qui, à partir du néant, fait que les choses existent. Donc c'est bien Dieu. Pour Heidegger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour Heidegger, c'est Dieu créateur, Dieu créant son être à lui. Donc finalement, c'est pour ça qu'il aime tellement quelqu'un, rappelez-vous, qui s'appelle Parménide. Parce que Parménide, c'est lui qui réouvre la possibilité de chercher le point de vue de l'être, à partir d'une révélation. La déesse Diotime qui lui dit ceci. Et l'être, c'est ce qui ouvre l'intelligence de l'homme. plonge-toi dedans. Sois à la quête du point de vue de l'être. C'est une révélation. Il y a comme une aletheia, un dévoilement de l'être. C'est quelque chose de transcendant. Mais pour nous, c'est pas quelque chose de transcendant, j'existe. Bon, on va souffler un peu et on va continuer. Il est 4h30, on va souffler pendant 10 minutes et on va reprendre.